Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces d'un génie. Nous partirons à Florence, en Toscane, à Milan, mais aussi à Amboise, en France, au Clos Lucé, là où il s'est éteint, puisque c'est Léonard de Vinci.
Au cœur de l'histoire.
200 millions. Murmure dans la salle quand on passe la barre des 200 millions de dollars. Applaudissements aux 300 millions. 300 millions. Les derniers enchérisseurs à se battre sont au téléphone, stupéfaction quand une voix annonce 400 millions de dollars.
And the piece is sold.
Vous avez entendu cette vente aux enchères, c'était le 16 novembre 2017, chez Christie's à New York. Un prince saoudien, peut-être saoudien, avait acheté le Salvatore Mundi, la fameuse toile de Léonard de Vinci, pour le compte du Louvre d'Abu Dhabi, disait-on, à un prix record de 400 millions de dollars. C'était devenu le tableau le plus cher du monde. Mais depuis cette vente historique, le Salvatore Mundi n'a jamais refait surface. Personne ne sait s'il est à Abu Dhabi ou à Genève. C'est un problème. Car il devait faire partie d'une rétrospective du Louvre à Paris qui souhaite consacrer à Léonard de Vinci pour ses 500 ans une grande exposition. Vinci, décidément, est un peintre qui nous pose toujours des problèmes et qui laisse un nombre d'interrogations en suspens à travers son œuvre, mais aussi à travers son histoire. Nous allons rentrer dans ses secrets, nous allons rentrer dans les arcanes de sa vie, essayer de comprendre quelques-uns des mystères qu'il a laissés en suspens, et je vous emmène au cœur de la vie de Léonard. Notre histoire commence le 22 juillet 1490. Dans les rues de Milan, un homme marche accablé par la chaleur estivale. Cet homme, aux cheveux déjà grisonnants, noué en queue de cheval, habillé de noir, est déjà une sommité pour son époque. C'est le grand Léonard de Vinci, l'un des peintres les plus connus, l'artiste de la Vierge au Rocher, ce célèbre tableau destiné à décorer l'église San Francesco, dans la grande rue de Milan. À l'époque, Léonard de Vinci a 38 ans. C'est le seul à pouvoir concurrencer sérieusement l'autre grand artiste de son temps, Michel-Ange. Alors qu'il marche seul dans les rues de Milan, les badauds le reconnaissent. Certains lui font un signe. Lui marche d'un pas tranquille, mais soudain, son regard s'arrête sur une silhouette croisée au coin d'une rue. Il ne peut s'empêcher de dévisager un garçon d'une dizaine d'années, à l'air angélique et à l'allure androgyne. L'adolescent est en train de déambuler lentement, vêtu d'un guarnello, c'est-à-dire d'un voile léger, porté généralement par les femmes en tant que vêtement d'intérieur. Sa tenue inhabituelle pour un garçon de l'époque laisse même entrevoir son torse imberbe. Pour supporter la chaleur, il s'évente lentement le visage avec un mouchoir brodé. Ses cheveux blonds et bouclés s'agitent. Sa nonchalance affichée contraste avec son sourire. Un sourire mystérieux dont on ne saurait dire exactement ce qu'il exprime. Est-il soucieux? Attend-il quelqu'un en particulier? Est-il même conscient de ce qu'il dégage? Ce jeune homme apparaît à Léonard comme un songe, comme un idéal de beauté pour sa peinture. Devant lui apparaissait enfin un ange dans un corps d'homme. Le peintre est sous le choc et sans même s'en rendre compte, il s'avance vers l'enfant. Plus Léonard s'approche de lui, plus il constate que ce jeune enfant, malgré ses quelques attributs coquets, est sans doute un enfant des rues, sans éducation ni repère. Le peintre alors l'interroge. Le petit s'appelle Gian Giacomo Caprotti. Il vit avec son père, lui aussi très pauvre. De façon presque instinctive, Léonard de Vinci se rend chez eux et, en échange de quelques florins donnés aux parents, il recueille l'enfant au sein de sa bottega, son atelier d'artiste, qui réunit maîtres et élèves. L'enfant devient le disciple du peintre. Mantoue, Venise, Florence, partout où Léonard de Vinci se rend, Gian Giacomo l'accompagne. Il participe à ses toiles, produit ses propres dessins. Surtout, il va être le modèle du peintre pendant des années, lui qui incarne la sensualité d'un éphèbe grec. Alors bien sûr, la relation entre cet homme célèbre et ce jeune homme va faire beaucoup parler à l'époque, comme de nos jours, puisque Léonard de Vinci ne s'est jamais caché de son homosexualité. De nombreux observateurs s'accordent d'ailleurs pour dire qu'ils étaient amants. Ce qui est sûr en tous les cas, c'est que le jeune Gian Giacomo, au fur et à mesure des années, donne beaucoup de fil à retordre à Léonard. Il est caractériel. En colère, il n'hésite pas à casser des objets et à voler parfois ce qui lui manque dans les affaires des autres. Léonard va très vite le surnommer Salai, ce qui signifie le petit diable en italien. Pendant 25 ans, Salai va rester auprès de son maître, entraînant tantôt des disputes mémorables, tantôt des dépenses importantes pour réparer les dégâts causés lors de ses colères. Simple muse ou amant diabolique, Salai est l'un des nombreux mystères de la vie et de l'œuvre colossale de Vinci. La réalisation de tableaux comme La Seine, La Dame à l'Hermione, Saint-Jean-Baptiste, son autoportrait, l'adoration des mages, la bataille d'Anghiari et encore tant d'autres ont jalonné la carrière d'artiste de Léonard. Ses œuvres sont typiques de ce que l'on appelle le Quattrocento, ce mouvement culturel du XVe siècle, synonyme d'un bouillonnement exceptionnel. À cette époque, les cités italiennes les plus émergentes comme Venise, Milan, Bari ou Rome se livrent à une vraie compétition pour s'offrir les services d'artistes aux noms prestigieux. Ce mouvement se traduit par un renouveau artistique, une rupture avec le goût byzantin, avec l'art médiéval. Il amorce le début de la période de la Renaissance en Europe. C'est à ce moment que s'épanouit la peinture de Léonard. Mais le tableau qui a fait couler le plus d'encre et qui n'a pas encore livré tous ses secrets, c'est bien évidemment la Joconde. Réalisée entre 1503 et 1519, elle attire encore aujourd'hui 15 000 visiteurs par jour au musée du Louvre. Ce portrait, en huile, sur bois, est probablement celui de la Florentine, Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo, un fortuné marchand de soie. Le sourire énigmatique de la Joconde, de Mona Lisa, fascine le monde et les visiteurs du Louvre depuis des générations. Il y a celle conservée à Paris, sans conteste la plus connue et considérée comme la Joconde originale, l'œuvre complète. Mais on ignore souvent qu'il existe aussi deux autres Jocondes, l'une conservée à Lausanne et l'autre à Madrid. Leur existence n'a jamais été cachée au grand public. Mais elles n'ont jamais attiré les foules, sans doute parce qu'elles étaient présentées comme des copies de peintres inconnus ou qu'elles n'avaient pas été authentifiées comme des œuvres de Vinci. La Joconde de Lausanne, par exemple, a été peinte sur toile et ses couleurs sont plus vives que la Joconde du Louvre. La posture et les vêtements sont similaires, mais pas le paysage de l'arrière-plan. Dès le début du XXe siècle, la possibilité que la Joconde de Lausanne ait été peinte par Léonard avait été envisagée. Mais la piste n'avait pas vraiment abouti. D'autant que pendant plus de 40 ans, le tableau a été gardé dans un coffre en Suisse. Mais en septembre 2012, les experts de la Fondation Suisse Mona Lisa organisent une grande conférence de presse à la résonance mondiale. En s'appuyant sur un travail de plus de 300 pages, ces scientifiques affirment que la Joconde de Lausanne est bien une version antérieure que celle qui est présentée à Paris. Surtout, ils démontrent que cette version a bien été peinte par le maître. Selon eux, les éléments scientifiques, historiques et artistiques qu'ils ont rassemblés dans leur livre prouvent que la ressemblance entre les deux tableaux est telle que l'artiste qui a réalisé la version de Lausanne a forcément réalisé celle de Paris. Mais la Joconde de Lausanne a été produite 10 ans plus tôt. Faut-il en conclure que la Joconde de Paris ne serait qu'une copie ? Le mystère de la Joconde ne cesse de s'épaissir. Car la toile conservée au musée du Prado à Madrid a également fait parler d'elle en 2012. Les conservateurs de ce musée ibérique ont toujours pensé qu'elle était postérieure à celle de Paris. Mais lors d'une récente restauration, les radiographies ont montré qu'elle avait été réalisée à la même période que celle du Louvre. Les spécialistes ont été trompés par le paysage qui entoure le personnage. Il avait été recouvert de noir 2 siècles après la création de la toile. Les experts ont donc reconsidéré leur conclusion. La Joconde de Madrid avait été peinte sans doute par un disciple de Léonard, mais certainement pas par le maître lui-même. Il y a donc 2 Jocondes originales, l'une à Lausanne, l'une à Paris, et sans patriotisme aucun, on peut dire que celle de Paris est tout de même bien plus belle. Mais si la Joconde fascine autant, c'est parce qu'elle abrite un autre mystère. Il y a de nombreuses thèses sur l'identité de la fameuse Mona Lisa, cette femme représentée sur le tableau. La Gioconda, la femme del Giocondo. Et si ce visage au trait si énigmatique était une combinaison? Si c'était plutôt celui d'un homme qui était représenté? Allons-y, disons-le. Si c'était celui de Salai qui figurait sur le portrait? C'est en tout cas ce que pensent plusieurs chercheurs. Le premier à avoir émis cette thèse est Silvano Vincenti, un chercheur italien privé qui a réalisé des études à partir de l'ensemble de l'œuvre de Léonard. En mettant côte à côte un certain nombre de tableaux, il réussit à identifier le visage de Salai et en voit des traces dans le portrait de la Joconde. Plus sérieusement encore, Vincenti peut s'appuyer sur de nouvelles découvertes. Au musée de Condé, un dessin, intitulé « La Joconde nue », présente lui aussi des traits caractéristiques de l'androgynie. Le corps est relativement proche de celui d'un jeune homme. En somme, pour les chercheurs aujourd'hui, la Joconde combinerait à la fois le visage de la Gioconda et celui de Salai. On aurait affaire à la première œuvre queer de l'histoire. En réalité, c'est aussi la technique picturale de Léonard qui fascine dans ce tableau. Sa capacité de fondre à la fois un décor et un premier plan avec un dessin dans une grande subtilité, c'est cela qui, déjà au XIXe siècle, avait déclenché l'admiration des critiques qui ont construit le mythe de la Joconde pour en faire le tableau aujourd'hui le plus connu au monde. Mais comment le regard de Léonard s'est-il forgé ? D'où viennent toutes ces interrogations qu'il nous a laissées en héritage ? Il est né bâtard, d'un père issu d'une riche famille de notables et d'une mère paysanne, en 1452. Il n'a pas été élevé par ses parents, mais plutôt par son grand-père, Antonio da Vinci. Dès que Léonard eut l'âge de marcher, le vieil homme l'emmenait dans la campagne, près de leur petit village de Vinci, à une vingtaine de kilomètres de Florence, sur les chemins de Toscane. C'est là qu'il lui a donné son conseil le plus précieux, celui qui marquera sa vie. Il lui disait sans cesse « Bolocchio ». En patois toscan, cela signifie « Ouvre l'œil, regarde ». Et par cette injonction, le petit Léonard était invité à observer profondément la nature, les arbres, les animaux, les insectes, les oiseaux, tout ce qui se présentait à lui et qui un jour figurera dans ses tableaux. C'est à partir de ses expériences sensorielles qu'il va développer son sens de l'observation. Très vite, il est attiré par le dessin et se met à reproduire ce qu'il voit. Des dessins précis qui sont présentés à un célèbre artiste de l'époque, un maître, Andrea del Verrocchio. C'est dans son atelier que Léonard va apprendre l'art de la peinture, de la sculpture et même de la fonderie, ainsi que d'autres disciplines. Il y aura avec lui des apprentis de très grand niveau. L'un d'entre eux est devenu une des idoles de la peinture du Quattrocento et du Cinquecento. Il s'appelle Sandro Botticelli. Et puis il y aura aussi un autre futur maître, il Perugino, le Pérugin, originaire de Pérouse. En 1478, à seulement 26 ans, Léonard devient maître peintre indépendant et commence à travailler dans des monastères qui lui commandent des toiles ou des fresques. Mais lui rêve d'explorer d'autres horizons. Depuis toujours, il s'intéresse à la mécanique. Ses carnets de recherche prouvent que très tôt, il a imaginé un système de barrières mobiles pour protéger une ville contre des attaques terrestres, par exemple. Il a également réfléchi à la façon la plus ingénieuse de gérer un fleuve comme l'Arno pour irriguer les terres autour de Florence. Si bien qu'il lui vient à l'idée qu'il serait peut-être plus utile pour ses contemporains comme ingénieur, comme créateur de systèmes qui puissent les aider à dominer le monde ou à asservir la nature. C'est dans cette optique qu'il va écrire à la famille Sforza. La famille Sforza a pris le pouvoir à Milan et dirige désormais ce grand-duché. En 1482, il écrit à Ludovic Sforza, le grand-duc, pour vanter ses compétences et lui demander un poste d'ingénieur militaire.
Ayant, très illustre seigneur, vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent maîtres en l'art d'inventer des machines de guerre, et ayant constaté que leurs machines ne diffèrent en rien de celles communément en usage, je m'appliquerai à révéler à votre excellence certains secrets qui me sont personnels. Premièrement, j'ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter pour la poursuite de l'ennemi en fuite, d'autres plus solides qui résistent au feu et à l'assaut, et aussi aisés à poser et à enlever. Je connais aussi des moyens de brûler et de détruire les ponts de l'ennemi. Deuxièmement, dans les cas d'investissement d'une place, je sais comment chasser l'eau des fossés et faire des échelles d'escalade et autres instruments d'assaut.
Étonnante lettre de motivation de Léonard de Vinci au duc de Milan, qui pourtant va séduire le Sforza et le pousser à inviter Léonard de Vinci à venir dans sa capitale. C'est ainsi que Léonard va trouver un climat favorable à l'expression de tous ses talents au service de Ludovic Sforza. Il va employer celui qu'il appelle le Florentin, aussi bien à des tâches de peinture qu'à d'autres fonctions. Il est ainsi nommé, Léonard de Vinci, ordonnateur de fêtes et spectacles au décor somptueux. Il porte aussi le titre d'ingeniarius ducalis, c'est-à-dire d'ingénieur et d'architecte au service du duc. C'est lui qui s'occupe, par exemple, de l'étude pour le dôme de la cathédrale de Milan qui fait l'objet de travaux. Cette trajectoire s'inscrit dans les stratégies sociales classiques de la Renaissance. Des hommes talentueux sont à la fois des artistes, des techniciens, et ils s'emploient à faire reconnaître leurs talents par des mécènes, des princes. Pour asseoir son pouvoir et effacer le souvenir de la dynastie qu'il a remplacée, Ludovic Sforza, son mécène, donc, lui fait une première commande. Il souhaite réaliser une statue équestre immense, censée représenter son père défunt, Francesco Sforza, sur son cheval. Dès son arrivée à Milan, Leonardo da Vinci consacre des heures à griffonner des dessins, produire des notes, esquisser des croquis. Tout cela sur ses fameux carnets, appelés aussi codex, qui foisonnent d'idées novatrices et remarquables. Par exemple, pour la réalisation de cette statue équestre, il se met à chercher les proportions exactes entre le corps du cheval et celle du corps humain. Il effectue de nombreux calculs de façon à élaborer un cheval artistiquement idéal. La statue devrait mesurer 7 mètres de haut et nécessiter 100 tonnes de bronze pour être coulée. Voilà pourquoi ce projet est si cher au cœur de Léonard. Au-delà de l'aspect artistique, il y a un défi, une prouesse technique à réaliser. Malheureusement, cette statue ne verra jamais le jour, car en juillet 1499, Ludovic Sforza doit faire face aux troupes françaises et vénitiennes qui attaquent Milan. Dès lors, il n'est plus question d'utiliser le bronze pour une statue, mais plutôt pour fabriquer des canons. Le cheval géant ne sera jamais coulé. Il restera à l'état de plan dans les carnets du maître. Il est difficile de parler de l'intérêt de Léonard de Vinci pour le corps humain sans évoquer une de ses œuvres majeures, l'Homme de Vitruve, réalisée en 1490. Chacun a en tête ce dessin, où le maître représente les proportions idéales, parfaites, du corps humain. Ce dernier est inscrit dans un cercle, dont le centre est le nombril, ainsi que dans un carré, au milieu duquel se trouvent les organes génitaux. Ce dessin est un symbole emblématique de l'humanisme et de la Renaissance qui prône l'idée que l'homme se situe au centre de l'univers, au centre de la représentation du monde, au centre même du regard. Et c'est tout l'effort de l'invention de la perspective et de ce fameux point de fuite qui nous crée, nous spectateurs, en sujet, observant le monde. À peine 50 ans, Léonard de Vinci a acquis une telle réputation que les princes d'Italie se le disputent. Milan, la capitale des Sforza, abrite l'une des plus grandes manufactures d'armes et d'armures d'Italie. Ici, Vinci a eu le temps d'ajouter encore quelques nouvelles cordes à son arc. Il a rencontré de nombreux techniciens et capitaines de guerre, comme Biagino Crivelli, qui le forme à l'art du combat. En 1502, il est appelé à Rome par le prince César Borgia, duc de Valentinois et fils du pape Alexandre VI. Il est nommé capitaine et ingénieur général. Sa carrière prend alors une tournure strictement militaire. Cette fois, il lui est demandé d'inspecter les territoires nouvellement conquis, les forteresses, les canaux, pour en dresser des plans, dessiner des cartes et préparer la défense. Le 18 octobre 1503, il retourne à Florence où il remplit les fonctions d'ingénieur de guerre et dessine notamment des arquebuses, une bombarde chargée par la culasse, des engins de siège comme la catapulte, le mortier ou la baliste. Le maître se transforme également en ingénieur hydraulique. Dans ses carnets, il met au point un scaphandre et un navire de guerre qui ressemble fortement à un sous-marin. Voilà pourquoi il est tant considéré par les ingénieurs militaires comme un précurseur, comme quelqu'un qui aurait inventé les stratégies de la guerre contemporaine. Vinci est en avance sur son temps et il a déjà conscience de toutes les nuisibles motivations des hommes et des inventions les plus incroyables que le 19e et le 20e siècle livreront bien plus tard.
Je ne décris pas ma méthode pour rester sous l'eau, ni combien de temps je peux y rester sans manger. Et je ne les publie et ne les divulgue pas en raison de la nature maléfique des hommes qui les utiliseraient pour l'assassinat au fond de la mer, en détruisant les navires, en les coulant, eux et les hommes qu'ils transportent.
Maître de la mer et des sous-marins, Léonard de Vinci a aussi un autre rêve. Parvenir à créer des machines volantes, parvenir à faire voler les hommes. Il tentera de le faire à plusieurs reprises. Il laissera des dessins et des croquis qui inspireront parfois les pionniers de l'aviation contemporaine. Mais ses recherches ne vont pas s'arrêter là. Alors qu'il vient de déménager en France, en 1516, Léonard de Vinci va aussi mettre en place des automates. L'un d'entre eux sera même présenté au roi François Ier en 1517. Pour vous le décrire, je vous laisse dans les mains d'un historien regretté, Gonzague Saint-Brice, écrivain, qui faisait une visite particulière du Clos Lucé au public et décrivait la machine telle qu'elle avait dû être au moment où elle fonctionnait.
Panique généralisée, tout le monde a peur. Le lion lève sa lourde gueule. Le roi, qui regarde les femmes pour frimer, écarte les gardes, prend son couteau de chasse et au moment où il va frapper le lion éclate en deux. De son dos jaillit une gerbe de fleurs de lys. Le lion était un automate de Léonard de Vinci.
Oh là là. J'avais pas que Léonard de Vinci pouvait faire ça.
Cette fascination pour la mécanique, pour le mouvement, bien évidemment, Léonard ne l'a pas appliquée qu'aux objets. Déjà 30 ans plus tôt, en 1487, il a commencé à s'intéresser à la mécanique humaine. Dans ses carnets, des dizaines de dessins représentent des squelettes humains, des os, des muscles, des tendons. Mais ses recherches manquent de précision. Il va alors se livrer à une activité qui était réprouvée par la société, qui pendant longtemps était interdite par l'Église. La dissection de cadavres. Oh, elle est en partie tolérée par le pape pour les hommes de qualité. Boniface VIII, en effet, à partir de 1482, a autorisé les dissections à usage médical. Mais Vinci n'est pas médecin. Il va donc obtenir des corps en grand secret et se livrer à des dissections. Il a tellement peur que l'on découvre cette activité qu'il l'exerce dans le plus grand secret. Il mène ses recherches dans la clandestinité. Il trouve beaucoup de corps d'hommes, morts dans la rue, morts accidentés, qu'il décrit dans ses carnets. En revanche, peu de corps de femmes lui ont permis de mieux comprendre l'anatomie du sexe féminin. Si bien qu'il y a une sorte de déséquilibre dans son trait, qui peut aussi expliquer le caractère androgyne de certains de ses dessins. Voici en tous les cas comment Léonard décrivait lui-même sa passion pour la dissection.
J'ai voulu aussi passionnément connaître et comprendre la nature humaine, savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de nos corps. Pour cela, des nuits entières, j'ai disséqué des cadavres, bravant ainsi l'interdiction du pape. Ce que j'ai cherché finalement, à travers tous mes travaux et particulièrement à travers mes peintures, ce que j'ai cherché toute ma vie, c'est à comprendre le mystère de la nature humaine.
Une trentaine de cadavres sont ainsi passés entre ses mains et il a pu en dessiner les principaux organes. Ses travaux scientifiques ne sont pas anodins, car cinq siècles plus tard, en 2017, L'une de ces découvertes va être confirmée par les milieux médicaux.
Ce mésentère est situé dans notre abdomen. Il fait partie du système digestif. Alors à quoi ressemble-t-il ce nouvel organe? C'est un ensemble de tissus veineux qui permet de relier nos intestins à la paroi de l'abdomen. En réalité, ce mésentère était déjà connu depuis longtemps. C'est Léonard de Vinci qui le premier l'a décrit à l'époque de la Renaissance.
Vinci a donc été un précurseur de l'activité scientifique médicale. Il a su entrer dans les insondables mystères du corps humain. Mais ces taches sombres ne doivent pas occulter une autre dimension, beaucoup plus festive celle-là, de Léonard de Vinci. Rappelez-vous, Ludovic Sforza l'avait nommé grand ordonnateur des fêtes. C'est lui qui était chargé des grands banquets. Il devait les rendre inoubliables pour les courtisans. Si Vinci avait cette capacité, c'est qu'apparemment, tout jeune encore, alors qu'il était dans l'atelier del Verrocchio, de son maître en peinture, avec Sandro Botticelli, ils avaient commencé à avoir un intérêt singulier pour un autre art, celui de la gastronomie. Ils auraient, en tout cas, c'est ce que laissent entendre un certain nombre de journalistes, ils auraient créé un restaurant à l'enseigne des Trois Grenouilles, qui aurait fait faillite car les deux hommes ne parvenaient pas vraiment à s'y investir. Plus tard, un texte aurait été aussi trouvé à l'Ermitage en Russie, bien que cette institution démente le détenir, et ce texte recueillerait des recettes de Léonard de Vinci, notamment le fait de prendre un bœuf entier, de le couvrir de carottes, de fenouil, d'oignons, et de le laisser cuire, à mijoter, pendant plus de 16 heures. Vinci serait ainsi l'inventeur de la cuisson à basse intensité. Mais rien n'est certain de ses initiatives culinaires. La seule certitude qui demeure est que la dernière phrase de son dernier carnet, qu'il a écrit presque à la fin de sa vie, reste un mystère pour nous. Je vous la donne en italien. Perché la minestra si fredda? En français, on dirait parce que la soupe se refroidit, ou cela pourrait être une question, pourquoi la soupe se refroidit-elle? Dans tous les cas, Vinci est resté un mystère que ne pourront pas non plus éclaircir les deux chefs d'État, italiens et français, qui se sont rendus à Amboise et au Clos Lucé pour lui rendre un dernier hommage le 2 mai 2019. Chacun d'eux gardait en lui l'image l'un d'un Vinci italien, l'autre d'un Vinci français. Mais on aura compris, au terme de cet épisode, que pour Vinci, il y avait avant tout des êtres humains, gardant chacun leur part de secret, leur part de mystère, leur part d'ombre, mais aussi leur part de beauté et de grandeur. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Christophe Daviaud.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.